Chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Au niveau de notre théologie, ça peut un petit peu nous bousculer des fois parce que notre cerveau veut tout analyser. Donc, si je vous dis que ceci a été écrit à une église, donc si Jésus se tient dehors, c'est qu'il n'était plus dedans, d'une certaine façon. Mais je dirais, au-delà de notre analyse, est-ce que Jésus était maintenant dehors ou dedans, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est quoi? C'est le désir du Seigneur d'avoir une intime communion avec nous et que notre rôle est important. Lui se tient à la porte et il frappe, et nous avons la capacité d'ouvrir. Et je crois que nous avons vraiment besoin de recevoir cette révélation de à quel point Dieu respecte notre volonté. Parce que tellement de choses, c'est pas pour nous glorifier, pour élever l'homme, mais tellement de choses dépendent de l'homme, parce que Dieu l'a voulu comme ça. Il a voulu que l'homme puisse être, je dirais pas maître de son destin, mais choisir sa destinée. Dieu a une destinée glorieuse pour chacun d'entre nous, vous le savez. Nous sommes appelés à régner avec lui pour l'éternité. C'est pas glorieux ça? Régner avec lui pour l'éternité. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est la chose la plus exaltante qui puisse arriver, et ce n'est pas une fable, c'est quelque chose qui va bientôt se réaliser. Bientôt, quand je dis bientôt, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au minimum, il faudra attendre encore 1000 ans, vous le savez. Parce que le règne éternel de Dieu, on peut dire d'une certaine façon, commencera quand l'histoire de la terre sera terminée. Donc au minimum, il y aura encore 1000 ans. Mais pour nous, à partir du moment où on sera réunis, rassemblés avec Christ, on ne va plus compter les années. Hein? On sera déjà dans l'éternité. Puisque nous avons déjà maintenant la vie éternelle en nous, donc quand on vous parle d'âge, jeune, vieux, tout ça, qu'est-ce que c'est quelques années face à l'éternité? C'est pas grand-chose. Surtout que le vrai vous, c'est l'esprit qui ne peut pas vieillir. C'est juste l'enveloppe qui vieillit un petit peu, la tente dans laquelle nous habitons, la maison dans laquelle Dieu nous fait habiter, mais ce n'est pas grand-chose. Mais donc, nous avons un avenir glorieux. C'est vrai que l'homme naturel, les gens autour de nous, n'y pensent pas souvent à cela. Ils pensent que c'est des fables, et ils pensent que tout ce qui est réel, c'est seulement ce qu'on peut toucher et voir. Mais nous avons reçu cette grâce de Dieu de pouvoir regarder des choses invisibles, des choses éternelles, et c'est celles-là qui vont durer. Et en attendant, eh bien, Dieu nous a donné plein de choses à notre disposition. Et il nous a donné des choses précieuses, qui sont précieuses, mais que des fois le diable nous les fait un petit peu pâlir, un peu ternir. Et on se dit, bof, est-ce que vraiment c'est tellement important ça? Est-ce que j'ai déjà essayé ceci, cela, ça n'a pas marché? Alors, nous avons besoin... nous encourager ensemble à dire, ne laisse pas échapper les choses que Dieu t'a données. C'était pas un homme qui a écrit ça, c'est Jésus lui-même qui est apparu donc à Jean et qui lui a dit, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Tiens ferme, ne laisse pas glisser. En anglais, il y a un mot pour glisser, c'est to slip. Oui, slip. Oui, slip, ça donnait le slip en français, qu'on enfile, hein. Mais donc l'idée, moi, quand je pense à ce mot, j'ai toujours cette image en tête. Je pense à un pêcheur qui aurait attrapé un poisson, qui est maintenant le détache de son hameçon pour le mettre dans son panier, sa corbeille, son seau. Et puis, vous savez comment ça peut arriver avec les poissons. Hop, vous essayez de le tenir et puis vous glissez entre les. Et j'ai pensé à des choses justement spirituelles, des choses précieuses qui sont là, que nous avons, on les a déjà attrapées, hein? Parce que là aussi, il y a tout quelque chose à méditer, parce qu'il y a des choses qui peuvent être enseignées. Je peux vous enseigner pendant des heures et des heures et des heures, mais si vous ne l'attrapez pas, alors ça sert à quoi? Si on dit comme en français des fois, ça nous passe au-dessus. Ça ne doit pas passer au-dessus, ça doit rentrer dedans. Et pour que ça rentre dedans, bien il faut qu'il y ait en nous ce désir, ce désir fort, cette volonté active de dire maintenant je veux manger les paroles de Dieu, je veux les boire, je veux qu'elles rentrent en moi et qu'elles produisent ce que la Bible dit qu'elles produisent, qu'elles me donnent la vie, qu'elles me donnent ce qu'il me faut, la santé, la paix, la joie, de toutes ces choses, eh bien sont communiquées par cette parole qui demeure. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. On est compte de cette promesse, demandez ce que vous voudrez. Qui n'a jamais entendu parler des contes de fées où ils ont rencontré je ne sais qui, et puis ils avaient trois souhaits, ou alors les mille et une nuits avec les lampes magiques, et puis ils pouvaient demander au génie. Mais toutes ces choses, c'est quoi? Ce ne sont que des contrefaçons de quelque chose qui est réel. Vous comprenez ça? Les contes, toutes les histoires qu'on invente. Il ne faut pas dire ça, c'est que des histoires. C'est des histoires, mais qui reflètent quelque chose de réel. Moi, je disais ça. Les religions, les légendes, les contes, toutes ces choses reflètent quelque chose qui est réel. Ou des fois, c'est la contrefaçon. Et nous devons donc voir que notre Dieu a fait des promesses dans la Bible. Et il nous est dit qu'un homme peut être menteur, mais Dieu ne peut pas être menteur. Romains 3, au verset 4. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Romains 3, verset 4. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Vous aimez entendre cette parole? Je suis en train de vous dire que chacun d'entre vous, vous êtes un menteur. Ça vous fait plaisir, ça? Nous avons été au début les enfants du diable, c'est le père du mensonge, mais nous avons accepté de naître dans la famille de Dieu par Jésus qui est la vérité et nous avons été transformés. Nous sommes maintenant des enfants à la ressemblance de notre Père céleste qui lui est vrai. Et tout homme, il est reconnu pour menteur. Ça veut dire que l'homme dans son naturel, eh bien non seulement il est capable de mentir, mais quand il est naturel, quand il est comme au début, séparé avec Dieu, eh bien ce qui sort de sa bouche, c'est du mensonge. Mais ensuite, cette chose change. D'abord, le premier mensonge qu'on arrête de faire, c'est qu'on ne dit plus maintenant « Jésus, c'est n'importe qui, il n'y a pas besoin de lui », on commence à dire « Jésus, la vérité ». Ça, c'est la première transformation. Mais après, il y a toutes les autres transformations. Dans chaque domaine de la vie, chaque fois, nous devons faire le choix. Nous avons deux opinions, celle de Dieu, celle du diable, et nous devons dire « pour qui nous votons ?» entre guillemets. Nous avons le dernier mot. Nous avons le dernier mot, pas dans le sens arrogant, encore une fois, c'est moi qui décide, c'est moi qui peux tout, c'est moi qui sais tout. Non, le dernier mot dans le sens que Dieu nous a réservé le droit de choisir. Et choisir quoi? Ben, le choisir lui, choisir ce qu'il dit, choisir la vie. Et donc, qu'est-ce qui est dit là? Quand il est dit une phrase un peu bizarre, que Dieu au contraire, quand c'est au contraire, ça veut dire qu'il y a quelque chose avant. Puisqu'on est en train de dire quelque chose avant. Eh bien, qu'est-ce qui est dit avant? Il est dit, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Vous avez déjà vu des incrédules? Ah, des fois, il faut juste regarder dans le miroir, et puis on en voit un. Il y a des incrédules partout. Des fois, c'est nous qui sommes incrédules. Des fois, il y a plein d'incrédules dans le centre chrétien, la parole de la foi est rempli d'incrédules, mais c'est pour ça qu'on y va, pour changer l'incrédulité en foi. Sinon, ce ne serait pas la peine, hein, si on était déjà les champions de la foi, on n'a même plus besoin de venir, mais c'est parce que on est assez humble pour dire qu'on a encore à apprendre. Mais il nous a dit ici, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité ne change rien à Dieu. Si je ne crois pas quelque chose que Dieu a dit, parce que, et je dis pas que je ne veux pas y croire, mais que je ne peux pas y croire. Je suis encore bloqué, j'ai des obstacles. Je n'arrive pas à le saisir. Je voudrais bien y croire, mais je sens au fond de moi que j'y crois pas. Si j'ai tous ces combats, eh bien la première chose à dire, c'est que même si je ne crois pas à cela, ça ne change rien à Dieu. Ça ne change rien à sa capacité, ça ne change rien à sa volonté et ça ne change rien à ses promesses. D'accord ? C'est déjà une première étape. Ou au moins je ne me place pas comme adversaire de Dieu. Ou au moins je n'essaie pas de pervertir ce que Dieu dit, fait, pense. Ça ne veut pas dire que je sais tout de ce que Dieu dit, fait et pense. Mais il y a des choses que j'ai apprises quand même. Vous aussi. Il y a des choses que vous avez apprises au cours de votre vie chrétienne. Et il y a certaines choses que je sais de Dieu, où je sais qu'en même temps, il est l'Éternel qui ne change pas, et bien qu'il est comme ça, parce qu'il s'est révélé comme ça dans sa parole. Si je prends l'exemple des noms de la Bible dans lesquels Dieu se révèle, et bien je sais qu'il est Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit, et Jéhovah Rapha, celui qui guérit, celui qui est présent, celui qui est notre paix, celui qui est notre justice. J'ai appris toutes ces choses, Dieu me les a révélées, vous aussi. Donc il y a des choses que je ne mets plus en doute, parce qu'il y a une autre attitude. Et des fois, j'ai beaucoup de peine pour ces gens-là, et je ne pense à personne en particulier, mais des gens qui, parce qu'il y a quelque chose qui coince dans leur vie, quelque chose qui ne marche pas, on essaye, entre guillemets, de changer Dieu. C'est-à-dire, j'avais cru que Dieu ferait ceci, cela, je ne vois pas que ça vienne, donc maintenant je change ma façon de voir Dieu. Et je dis, Dieu ne veut pas faire ceci, cela pour un tel X raison. Vous me suivez ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que dans notre pensée, on change notre façon de voir Dieu. Mais cette parole dit ici que même si quelques-uns ne croient pas, même si moi je suis un des incrédules, cette incrédulité ne change rien, ne peut pas annuler la fidélité de Dieu. On ne peut pas y toucher. Et c'est déjà une bonne étape pour la délivrance. Délivrance de quoi, me direz-vous ? Mais délivrance de notre forteresse de raisonnement qui nous empêche de recevoir le miracle de Dieu. Premièrement, déjà, je déclare que rien ne peut annuler la fidélité de Dieu. Et en faisant ça, je me range déjà du côté de Dieu. Je suis déjà moins incrédule, vous voyez ? Je suis déjà en route vers une transformation de ma part. Mon incrédulité, je ne parle pas de quelqu'un qui, malgré toute l'évidence, de la puissance de Dieu, de la bonté de Dieu, des promesses de Dieu, dit « Moi, j'en veux pas de ces histoires-là, j'y crois pas. » Je ne parle pas de ceux-là. Je parle de ceux qui aimeraient croire, qui rencontrent des obstacles, qui voudraient des solutions et qui a des choses qu'ils ne comprennent pas des fois. Ils n'ont pas la foi, parce que la foi, c'est quelque chose de vivant. Il y a ceux qui croient et il y a ceux qui croient qu'ils croient. Et la différence est très importante entre les deux. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont la foi, mais il y a une différence entre la foi et une croyance, des idées sur Dieu, ou quelqu'un a dit comme ça, un assentiment intellectuel. On voit dans la Bible, ben moi je peux vous dire que la Bible a mon assentiment intellectuel, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui est dans la Bible. Voyez ? Mais je peux vous déclarer ce soir que je n'ai pas la foi de Genèse jusqu'à Apocalypse. Il y a des tas de choses que je n'ai pas encore reçues au sens de la définition de la foi telle que nous l'avons reçue. Et quelle est la définition de la foi ? C'est de croire dans notre cœur, pas dans la tête, croire dans notre cœur et aussi le déclarer de notre bouche. Hein ? Pour des choses simples, vous pouvez le faire, chacun de vous peut le faire. Je peux dire, je crois dans mon cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Je le crois de tout mon cœur. Je ne suis pas simplement d'accord qu'il y ait eu un Jésus historique qui, il y a 2000 ans, a vécu. Et je ne sais pas ce qu'il était d'ailleurs. Peut-être un révolutionnaire, peut-être un fanatique, peut-être un gourou. Vous voyez, non, je ne parle pas de tout ça. Quelqu'un qui sait que Jésus est le Fils de Dieu et quelqu'un qui le déclare de sa bouche. Eh bien voilà, ça c'est une des expressions de la foi. Et la Bible nous montre que, eh bien, cette façon d'agir, de recevoir les paroles de Dieu, les recevoir en nous, les accepter, les faire nôtres, et puis oser s'aligner sur ce que Dieu a dit, eh bien, cela produit le salut. Cela produit la délivrance, cela produit la guérison, dans n'importe quel domaine. Puisque le mot que Dieu a utilisé dans le grec pour nous dire ça, le mot sozo, salut, eh bien, n'est pas un mot restrictif, mais un mot large, qui inclut toutes sortes de situations dans lesquelles vous auriez des besoins. Donc, si quelques-uns ne croient pas, et même Ça, c'est important. Même si ce sont des modèles pour nous. Même si ce sont des gens de référence pour nous. Et vous voyez, tout à l'heure, eh bien, tu as été le modèle pour le petit garçon à côté de toi. Il observait Jean-Marc, et quand Jean-Marc frappait dans les mains, il joignait les mains, et quand il y avait une main levée, il y avait une main levée. Donc, chacun d'entre nous, et ça c'est l'illustration toute simple, naturelle, nous sommes tous des modèles pour d'autres gens qui nous regardent, qui nous observent. Les parents sont les modèles des enfants. Les enfants observent, et vous pouvez dire ce que vous voulez, mais ce que vous faites aura plus d'importance. C'est en train d'enregistrer jour après jour, heure après heure, semaine après semaine, toutes vos petites habitudes, tous vos petits défauts, et tout cela s'imprime en eux. Et certaines choses, pour eux, ça veut dire si papa le fait, donc c'est bien. C'est ça que ça veut dire. Donc je peux aussi le faire. Donc c'est bien de le faire. Oui, c'est ça que ça veut dire. On transpose. Et donc spirituellement aussi, souvent, nous avons des modèles. Il y a des personnes que Dieu utilise puissamment, sont sur le devant de la scène. Ils ne sont pas meilleurs que nous. Mais en nous-mêmes, eh bien, on a envie de suivre des leaders. On a envie de suivre des gens qui ont été plus loin que nous dans le Seigneur. Et c'est bon comme ça. Mais ces gens-là sont aussi des gens comme vous et moi, de la même nature, avec des faiblesses. Et ces gens-là aussi peuvent avoir des faiblesses. Ils peuvent avoir quelque part où ils ne croient pas. Je me rappelle que l'homme qui a conduit Billy Graham à la nouvelle naissance, eh bien, c'était un homme qui était profondément baptiste. Ça veut dire qu'il croyait et prêchait l'importance de la nouvelle naissance. Avec des fruits évidents, puisqu'il y a des gens qui se sont convertis, dont Billy Graham, qui a amené au Seigneur des millions de personnes. Mais cet homme s'est opposé et a combattu la doctrine du baptême dans le Saint-Esprit, du parler dans d'autres langues, pendant toute sa vie, pratiquement. Toute sa vie. Et finalement, il s'est retrouvé dans une réunion des hommes d'affaires du plein évangile, où il y avait quelques pasteurs luthériens que lui jugeait issus d'églises mortes, et bien qui ont été saisis par l'Esprit de Dieu. Il y a eu une effusion du Saint-Esprit ce soir-là, et ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont mis en parler en d'autres langues, et il était confondu de la puissance de Dieu. Il s'est repenti, il a dit, et dire que j'ai combattu ça pendant 60 ans. Mais vous voyez, tous les gens qui ont suivi cet homme, pour eux c'était un modèle pendant toutes ces années. Et c'était un véritable homme de Dieu. Mais il avait peut-être 99% de sa doctrine qui était juste et 1% qui était faux. Et de la même façon pour chacun d'entre nous, nous ne devons pas calquer notre vie spirituelle sur quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, nous pouvons bien sûr nous laisser influencer, inspirer de la façon dont d'autres vivent des victoires, remportent des batailles, la façon dont ils vivent leur vie chrétienne. Mais quand je dis calquer, c'est copier. Et copier, c'est des fois bêtement copier, en disant, ah non, ça, j'y crois pas parce qu'il est contre. Ou, je n'y crois pas parce que un tel qui est un homme de Dieu a prié et il n'a jamais été guéri. Ou il n'a pas été... Eh bien, regardez verset 3 à nouveau. Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Ne vous laissez pas décourager. Si vous avez une prière que vous attendez depuis longtemps, si vous avez une réponse qui n'est jamais venue, ne regardez pas à droite, à gauche. Ne regardez pas tous les endroits où ça n'a pas marché. Ça ne m'intéresse pas de regarder là où ça ne marche pas. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'aime bien les histoires qui se terminent bien. Et dans la Bible, eh bien, il y a un happy end pour nous, croyants en Jésus-Christ. Eh bien, non seulement pour l'éternité, mais déjà sur cette terre. Ceux qui ont reçu le don de la grâce, l'abondance du don de la grâce, il nous est dit, Romains 5, 17, l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Donc régner, ça veut dire être en position de dominer par rapport à des circonstances qui sont ici la vie. Dieu veut nous amener dans une position où nous pourrons exercer notre foi au point de voir transformer des situations. Commençons à parler à la montagne qui est devant nous. Nous avons besoin de lui parler. Pourquoi? Parce que Jésus a dit qu'il fallait le faire. C'est une bonne raison, ça. Jésus a dit de dire à la montagne. Il faut parler à la montagne. Encore un de mes petits slogans que j'aime bien. Cessez de dire à Dieu combien grande est votre montagne. Et commencez à dire à votre montagne combien grand est votre Dieu. On peut le répéter pour le méditer encore une fois. Cessez de dire à Dieu combien grand est votre montagne. Et n'est-ce pas la plupart, et je ne blâme personne, on est tous dans ces situations des fois, la plupart des prières, c'est « Oh Seigneur, tu vois que ». Ça commence souvent comme ça. Vous avez remarqué déjà ?« Seigneur, tu vois que ». Oui, ce n'est pas la question. Même avant que vous commenciez à prier, il le savait déjà. Vous pouvez lui dire si ça vous fait du bien de répandre votre âme devant Dieu, mais en réalité, je vous dis déjà d'avance, ça ne vous fera pas grand bien. Ça ne va pas vous aider concrètement, c'est ça. Sur le moment, on a l'impression qu'on est soulagé. Vous savez d'où vient ce soulagement ? Ça vient de la pression de l'ennemi qui se relâche. Il y a un combat spirituel intense. Beaucoup veulent avoir des guérisons, des délivrances. Il y a un combat spirituel intense contre votre bouche. Le diable ne veut pas que vous disiez quelque chose. Il ne veut pas que vous dites, bien, cette situation est difficile, mais Dieu est tout puissant. Non, il ne veut pas que vous disiez ça. Il veut, au contraire, sois vrai. Tu dois dire franchement comment c'est. Et tu dois dire en détail toutes tes souffrances et toutes tes difficultés. Et à ce moment-là, quand vous commencez à ouvrir votre bouche et à dire tout ce qui ne va pas, il y a un relâchement qui se produit. Et vous avez l'impression, ça c'est la libération. Ça me fait du bien d'en parler. Non, vous savez ce qui s'est passé ? C'est que la pression spirituelle qui était sur vous s'est relâchée. Le diable a dit, ça y est, maintenant, il va dans la voie que je voulais. C'est quelque chose de très important que je suis en train de dire, parce que vous l'expérimentez régulièrement. Vous me dites, mais il n'y a aucun endroit où je peux une fois dire ma misère. Si, j'ai dit, vous pouvez répandre votre cœur devant Dieu, c'est dans la Bible aussi. J'ai dit que vous pouvez pleurer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais il y a un temps pour répandre votre cœur et un temps pour agir en vue d'un changement de la situation. Comprenez ce que je veux dire ? Parce que la compassion humaine, c'est de se taper sur l'épaule et dire « Oui, je comprends ce que tu souffres, par quoi tu passes. » Et ce n'est pas une mauvaise chose, parce que ça nous fait du bien. Vous ne trouvez pas que ça fait du bien ? Que si tout le monde s'en fiche, ou si quelqu'un vient avec sympathie et dit « Écoute, vraiment, je vois que tu es dans la peine et je comprends. » Ça fait du bien, mais ça ne change pas la circonstance. Vous êtes d'accord ? C'est ça que je veux dire. Nous annonçons un évangile qui n'est pas juste « T'en fais pas, ça ira mieux demain. » D'accord ? C'est plus que ça. Parce que l'évangile, des fois, a été prêché comme ça. Et je crois qu'il y a plus. Il nous est dit, l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La puissance de Dieu. C'est pas juste l'évangile, c'est un... Bien, il me vient encore le terme anglais, le painkiller, c'est le calmant. C'est pas le calmant qui t'aide à traverser ta situation. Il y a des situations... Dans les hôpitaux, on ne sait plus comment guérir les gens, on leur donne des calmants. Je trouve que c'est bien qu'il y ait des calmants. Vous trouvez aussi, plutôt que les gens se tordent de douleur, c'est bien qu'il y ait des calmants. Mais guérir la personne, c'est mieux. Alors s'ils ne peuvent pas donner des calmants, c'est mieux que rien du tout. Mais nous, nous voulons pas seulement donner des calmants aux gens, nous voulons leur donner Jésus lui-même qui peut les délivrer. Eh bien ce Jésus, eh bien, vous l'avez dans votre vie. Il veut pas juste que, eh bien, vous continuez votre petit bonhomme de chemin comme vous aviez toujours l'habitude, mais que quand ça va mal, eh bien, il y a autour de vous des gens qui vous comprennent et vous pouvez parler en détail de tout ce qui va pas. Il veut plus que ça. Et il vous a donné la voie de la victoire. La voie de la victoire, c'est votre voie. C'est ça la foi. Paul écrivait aux Thessaloniciens dans leur deuxième épître, n'êtes-vous pas enthousiaste de pouvoir changer les circonstances de votre vie ? Si vous n'êtes pas enthousiaste, c'est que vous êtes encore incrédule. Mais Dieu va changer ça. Il va vous communiquer par sa parole cette foi de croire c'est possible. Quelque chose peut changer dans ma vie. Quelque chose que j'avais jamais imaginé jusqu'à présent. J'avais jamais pensé que ça puisse arriver. Dieu annonce dans sa parole, il dit qu'il va faire des choses inouïes. Inouïes veut dire qu'on n'a jamais ouï. Louis, c'est le sens qui nous permet d'entendre. Eh bien, il y a des choses qu'on n'avait jamais entendues jusqu'à présent, que Dieu a dit qu'il va faire. Eh bien, dans ta vie, ça peut commencer comme ça. J'avais toujours pensé, mais ça, ça ne va jamais changer. Je ne vois pas comment ça pourrait changer. Eh bien, tu n'as pas besoin de voir comment ça pourrait changer. Tu as besoin d'abord de croire que ça peut changer. Et ensuite, tu le verras. Pourquoi vouloir constamment s'opposer à la parole de Dieu et renverser l'ordre divin? Dieu a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Beaucoup disent, si je vois la gloire de Dieu, alors je croirai. N'est-ce pas vrai? Il y a beaucoup qui ont vu la gloire de Dieu, ils n'ont pas cru. Hein? Vous avez déjà regardé dans l'Ancien Testament combien ils étaient attachés à Dieu et fidèles, et pourtant la montagne fumait, et il y avait les tremblements de terre, et il y avait la voix qui se faisait entendre. Il y avait des manifestations de la gloire de Dieu. On se demande comment c'est possible qu'il y ait eu un seul pécheur parmi les millions de personnes du peuple d'Israël. Ils avaient une colonne de feu la nuit et une nuée pendant le jour en permanence visible de leurs yeux. Et ça n'a pas changé leur cœur. Des milliers de personnes ont été guéries par Jésus. Jésus dit dans Jean 2, il ne se fiait pas à eux parce qu'il savait ce qui était dans l'homme. Jésus n'était pas impressionné. Des milliers lui ont couru après. Il leur dit, vous êtes venus juste parce que je vous ai nourri, parce que j'ai multiplié les pains. Et il n'est pas dit, formidable, maintenant ça va, ça marche fort pour notre mouvement. Non, il n'était pas impressionné. D'ailleurs, 500 personnes l'ont vu ressusciter et seulement 120 étaient rassemblés pour persévérer dans la prière. Mais il semble qu'il y ait des moments dans le peuple de Dieu où c'est toujours encore du tri, du tri et du tri et du tri. C'est ça la sanctification. Trier dans notre vie, enlever les choses, émonder pour porter plus de fruits. Et alors, quand on est vraiment prêt, et alors la vie de Dieu peut de nouveau jaillir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. D'abord, commençons par croire davantage la parole de Dieu et nous exhorter. Il nous est dit dans Hébreu, exhortons-nous chaque jour, autant qu'on puisse dire aujourd'hui. Chaque jour, exhortons-nous. Deuxième épître, Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. C'était mon verset de départ pour ce soir. Je voulais commencer avec celui-là. On a fait un petit détour, mais ce n'est pas grave. Paul écrit, devons frères rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet. Ça c'est bon. C'est ce que nous devons faire les uns pour les autres. Rendre grâce à Dieu continuellement à votre sujet. Quand vous entendez parler de quelqu'un, quand vous pensez à quelqu'un, qu'est-ce qui sort de votre bouche? Quelles sont les pensées de votre cœur? Eh bien, ici, il nous est dit ce qui doit être à ce sujet. Rendre grâce à Dieu continuellement. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette doctrine qui était un peu dans les milieux charismatiques dans les années 70, où il était dit de remercier Dieu pour toutes choses, pour les mauvaises choses. Dès qu'il y a un truc qui arrive de travers, dit merci Seigneur pour l'accident de voiture, merci Seigneur pour cette maladie. Non, c'est pas ça. Mais rendre grâce à Dieu parce que, quelles que soient les circonstances, Dieu est plus fort que ça. Dieu est encore celui qui peut faire concourir toute chose à notre bien. C'est ça. Parce que l'autre est une folie. Je suis désolé. Et notre pasteur, le pasteur des pasteurs, Jim Caseman, quand ils avaient leur petit garçon qui était en train de mourir du cancer à 7 ans, ils étaient en train de louer Dieu, de le remercier pour le cancer de leur petit garçon. Il a dit, nous étions complètement dans pleine folie. Et c'est celui qui, ils étaient tellement pauvres, il a dû l'enterrer de ses propres mains parce qu'il ne pouvait même pas se payer de quoi avoir recours à une compagnie de pompes funèbres. Des choses tragiques se passent et les chrétiens... Mon peuple périt par manque de connaissance, dit la parole. Eh bien, ils étaient là en train de remercier pour le cancer. On ne peut pas remercier quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a pas fait ou pas donné. Dieu n'était pas l'auteur de cela. Donc, rendre grâce continuellement à votre sujet, il dit comme cela est juste. Il faut rendre grâce à Dieu pour quelque chose qui est juste, pas quelque chose qui est faux. Vous comprenez? Eh bien, qu'est-ce qui était juste? Parce que votre foi fait de grands progrès. Si quelqu'un ne parle que doute et incrédulité à longueur de journée, je ne vais pas dans ma petite chambre, dans la prière, dire « Merci Seigneur pour la foi de ce frère ou de cette sœur qui fait de grands progrès. » À l'évidence, elle ne fait aucun progrès. Mais là, il est dit « La foi des Thessaloniciens faisait de grands progrès. » Et alors, il y a lieu de rendre grâce à Dieu. Et mais vous me direz, mais si la foi ne fait pas de progrès, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il ne faut pas dire tout le temps au Seigneur, eh bien, Seigneur, tu vois combien il est incrédule, combien il est dur, combien il ne veut rien entendre de toi, combien... Non, ça, le Seigneur sait déjà. Mais priez des choses utiles. Dites, Seigneur, eh bien, que son cœur s'ouvre, qu'il ouvre ses oreilles, qu'il fixe ses yeux sur la parole, parce que la foi viendra de ce qu'on entend, et la foi jaillira. Que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Encore un sujet de rendre grâce. Un sujet de rendre grâce, c'est quand l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Là encore, vous êtes d'accord que il n'est pas juste de l'appliquer de manière universelle partout. L'amour n'est pas en train d'augmenter partout. L'amour n'augmente pas chez chacun. Certains qui le développent, l'amour augmente. Mais Jésus a dit qu'il y aura une période où l'amour du plus grand nombre se refroidira, au contraire. Donc c'est un défi qui nous est lancé. Ce n'est pas une fatalité. On dira, ah oui, l'amour va refroidir, tant pis, hein, c'est comme ça, c'était écrit dans la parole, c'est le Seigneur Jésus qui l'a dit, donc non. Il dit, l'amour du plus grand nombre peut se refroidir, mais qu'est-ce qui nous empêche, nous, de travailler à ce que l'amour augmente? Et qu'est-ce que c'est l'amour? L'amour n'est pas juste une espèce de vague sentiment. L'amour, c'est ce profond désir de voir le bien se manifester dans la vie de quelqu'un. Un profond désir. Aucune jalousie, aucune envie, aucun jugement, aucune critique. C'est ça l'amour. L'amour qui augmente. Se pardonner. Et... je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de lire dans 1 Corinthiens 13, puisque c'est exactement l'amour en pratique dans l'Église. Je sais que ce verset est utilisé pour toutes sortes de choses, pour un mariage ou d'autres choses, et c'est pas mal. 1 Corinthiens 13, 4, l'amour est patient. Vous voyez, donc, ce n'est pas juste un sentiment. Parce qu'un sentiment, c'est « j'éprouve un sentiment », mais si quelqu'un use ma patience, le sentiment va disparaître, vous êtes d'accord? Il ne peut pas durer le sentiment. Et patient, c'est-à-dire que lorsque je ne vois pas les choses arriver comme je veux, eh bien l'amour, lui, ne change pas. Plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Il ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Ne cherchez pas votre intérêt. C'est dur ça. On cherche toujours. Il dit on cherche toujours. L'homme cherche toujours son intérêt. Qu'est-ce que ça va me rapporter? Si vous êtes là. La plupart du temps, les chrétiens raisonnent par leur assistance aux réunions. Qu'est-ce que ça va m'apporter? N'est-ce pas vrai? Bien sûr, on a besoin d'aller dans une réunion qui nous apporte quelque chose. On ne va pas perdre notre temps à aller tout le temps dans des trucs où ça nous coûte temps, argent, énergie et finalement on ne reçoit jamais rien. Hein? Le bon sens même nous dit non, il vaut mieux aller ailleurs que là où tu ne reçois rien. Mais il y a un temps pour recevoir et un temps aussi pour donner. Et si on est constamment seulement dans cette mentalité, je ne vais que là où ça m'apporte quelque chose, eh bien vous ne marchez pas dans l'amour, vous êtes dans cette situation de « je cherche mon intérêt, je veux savoir qu'est-ce que ça m'apporte ». Et ça, c'est parfaitement acceptable pour un bébé ou pour un jeune en Christ. On a besoin de recevoir, besoin de manger, manger la parole, recevoir de l'amour des frères et sœurs, recevoir des encouragements. On n'arrive pas toujours à louer le Seigneur, il y a des moments difficiles dans la vie. On est ensemble, on est encouragé. Ça va pour un temps. Et après, il faut dire, mais attention, maintenant l'amour doit se développer en moi. Et l'amour ne cherche pas son intérêt. Ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Nous avons aussi, j'ai partagé sur ces réunions de pasteurs avec des pasteurs qui sont d'origine, on a dit de famille chrétienne très diverse. Si on peut dire, il n'y a qu'une seule famille spirituelle. Hein. C'est la famille de Dieu, il n'y en a qu'une seule. Il y a deux familles dans le monde, celle du diable et celle de Dieu. Comme ça, c'est simple. On est soit dans l'une ou dans l'autre. Mais on parle des fois de famille. Alors il disait que, bon, il y avait un des groupes qui n'était pas représenté l'autre soir. Mais vous savez que s'il ne vient pas une fois, il vient pas deux fois, il vient pas trois fois, ça travaille dans la tête. On se dit, ça y est, ils ont quelque chose contre nous, ils veulent pas travailler avec nous, ils veulent pas nous encourager, etc. Eh bien, alors on peut agir pour détruire ces ruses du diable. Eh bien, une lettre a été écrite. La lettre a été écrite en disant, nous aurions voulu venir, mais on ne pouvait pas ce soir-là. Et comme ça, l'affaire est réglée. Et entre nous aussi, voyez, si on a des rencontres et il y a des gens qui ne viennent pas. Alors, quand on est dans l'amour, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on n'y pense même pas. Ou on les bénit simplement. On se dit, il y a eu quelque chose qui a fait qu'ils ne pouvaient pas venir. Ou... Mais on ne soupçonne pas. On ne se dit pas, mais qu'est-ce qui se passe? Et toutes sortes de machinations et d'imaginations. Voyez, c'est ça l'amour. Même si peut-être réellement, il se passe quelque chose qui est grave et que Dieu peut nous montrer. À ce moment-là, on peut intercéder. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais en attendant, on ne soupçonne pas. On marche dans l'amour. On se réjouit point de l'injustice. On se réjouit de la vérité. On excuse tout. Il est dit l'amour excuse tout. Il n'est pas dit je trouve toujours une excuse. Vous voyez la différence? C'est-à-dire je trouve toujours des excuses pour les autres. Mais c'est pas moi, j'ai toujours des excuses. C'est une grande différence. J'ai dit souvent, on lit des fois le courrier des autres. Comme quand il dit « Marie, faites ceci, cela, femme, faites ceci, cela ». Eh bien, ça ne rate pas. Dans tous les groupes, chaque fois que ces paroles sont prêchées, dès qu'on dit « Marie, faites ceci, cela », tout de suite la femme « Allez, t'as entendu, hein ?» Et puis quand on dit « Et femme, et vous ?» Alors le mari « Allez, ben, c'est à toi ». Non, chacun doit écouter ce qu'il concerne, lui. C'est très important. Excuse tout, crois tout. Il espère tout, il supporte tout. Il croit tout. Un peu plus loin, on lit « Ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. » La foi, l'espérance et l'amour ont été mises ensemble. Au début, quand j'ai dit que des fois on est incrédule, on est peut-être incrédule, mais au moins nous pouvons déjà espérer. Hein? Vous n'êtes pas souvent dans cette situation. Vous sentez que vous n'avez pas la foi, mais vous espérez. L'espérance n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. C'est une des choses importantes, une des choses qui demeurent. Et certains restent dans le domaine de l'espérance. Vous avez besoin, au bout d'un moment, de sortir de l'espérance pour rentrer dans la foi. Puisque la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quelqu'un a donné cette illustration, il a dit, pour l'espérance, c'est comme avec les moyens techniques, on peut maintenant, par un jeu de caméra, on peut vous faire une image en trois dimensions. C'est-à-dire, vous avez peut-être l'impression qu'il y a là un bonhomme dans la salle, et il n'y est pas, c'est juste une projection d'image qui fait que vous pouvez tourner autour et vous le voyez en trois dimensions, comme s'il était réellement là. Mais quelle est la différence? C'est que vous pouvez passer votre main au travers et il n'y a rien. C'est ça l'espérance. C'est je vois quelque chose, je l'attends, j'aimerais que ça se produise, mais quand je veux le saisir, il n'y a rien. Et c'est ce qui se passe trop souvent en nous. C'est pour ça que notre foi a besoin de faire des progrès. Parce qu'on voit des choses, on trouve que c'est « Ah, ça serait bien si seulement, le « si », c'est l'enseigne du doute, si seulement ça pouvait, eh bien, cette espérance doit se transformer. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Il nous est dit « La foi donne de la substance aux choses qu'on espère ». Ça commence à devenir, pour utiliser ce mot, tangible, peut le saisir. Tangible, je dis, ce n'est pas forcément tangible. Ça, c'est tangible. La table est tangible. Cette table, elle est tangible seulement du point de vue naturel, mais pas spirituel. Parce qu'il nous est dit, les choses invisibles demeurent éternellement et les choses visibles sont passagères. On confond des fois. On pense que la tangibilité, c'est quelque chose que je peux éprouver. Je peux avoir des sensations au niveau du corps. Je peux éprouver des choses, mais ce n'est pas pour autant que c'est ça, cette ferme assurance que je peux saisir. Elle est d'une autre nature. Elle est d'une nature spirituelle. Parce que les choses que je peux ressentir, même dans une réunion chrétienne, même quand il y a une manifestation de l'onction de Dieu, sont au niveau du corps. C'est une manifestation de l'esprit qui de l'intérieur va vers l'extérieur, mais qui se manifeste au niveau du corps et qui ne prouve rien d'autre que l'action de l'esprit qui veut être esprit à mes corps. D'accord ? Mais en réalité, ce qui va demeurer, ce sera toujours au niveau de l'esprit. Nous devons donc fixer nos regards sur les choses de l'esprit. Choses de l'esprit. Et l'esprit lui-même, eh bien, il nous communique des choses. La foi fait de grands progrès chez les Thessaloniciens. Il y avait une première lettre qu'il leur a écrite, et puis une deuxième. Et entre les deux, il y a eu des nouvelles. Et on lui a raconté à Paul, il disait, chez les Thessaloniciens, eh bien, ça progresse, ça grandit. Eh bien, je pense que Dieu attend des progrès de votre foi. Croyez aussi ça? Puisque sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu aimerait que vous lui plaisiez plus aujourd'hui que hier. Comme pour, et ça c'est le drame des fois du mariage, il y a des gens qui font tous leurs efforts pour être agréables à leur fiancé. Et ils se font beaux, ils se préparent, et au moment du mariage, et après on a l'impression des fois, dans certains couples, il y a un relâchement. On ne fait plus d'efforts pour se plaire. Eh bien, je crois que c'est une des composantes de l'amour, de chercher à plaire. Je ne parle pas de séduire. Dans 1 Corinthiens 7, il nous est dit que celui ou celle qui est mariée, 1 Corinthiens 7, celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, 1 Corinthiens 7, 32. Des moyens de plaire au Seigneur. Donc l'apôtre Paul trouve normal, quand on est chrétien et qu'on n'est pas marié, eh bien c'est comme si on a une relation d'amour avec Dieu et on cherche à lui plaire. Parce qu'il le compare à la suite. Et il dit, et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme, il parle de la femme dans le sens mariée, et la vierge, celle qui n'est pas mariée. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Sans distraction. Donc, cherchons à lui plaire à lui. Il prend cet exemple dans le naturel que chacun d'entre nous peut comprendre. On cherche à se plaire, on cherche à s'être agréable. Et au bout d'un moment, parce qu'on est marié, on peut trouver normal de laisser de mauvaises habitudes se développer ou des habitudes ou des attitudes. On n'a plus autant d'égards, de respect, d'honneur, d'autres choses. Eh bien, l'apôtre Paul dit non, ces choses ne doivent pas être. Ne doivent pas être dans le mariage et ne doivent pas non plus être dans notre relation avec Dieu. Mais plutôt chercher à lui plaire, comme s'il y avait besoin de gagner son amour. Il n'y a pas besoin de gagner l'amour de Dieu, mais il y a une différence entre savoir qu'on est aimé de Dieu et lui plaire. Agir d'une façon qui lui soit agréable. Eh bien, qu'est-ce qui plaît à Dieu? Eh bien, c'est la foi. Quand il entend, ah, ça y est, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. Elle parle comme je parle. Elle parle mon langage. Il parle mon langage. Elle parle mon langage. Elle me permet d'agir sur terre. Elle me permet de changer les circonstances. Au lieu de pleurnicher sur ce qui ne va pas, elle commence à croire ma parole. Il n'est pas encore arrivé, mais il ne se décourage pas. Il continue de déclarer que j'ai dit la vérité dans ma parole. Il continue de dire que mes promesses ne seront jamais annulées. Vous voyez ? Et c'est ce que nous devons faire. Et nous encourager sans cesse. Nous devrions faire des concours pour nous stimuler mutuellement aux déclarations de foi. Comme nous le faisons des fois, et je me rends compte combien c'est difficile, combien une bataille. Que ce soit maintenant notre déclaration de « voici ma Bible » ou d'autres choses, on le répète un peu mécaniquement. On a besoin de dire certaines choses jusqu'à ce qu'il y ait un écho au fond de nous-mêmes. Et qu'on dise plus juste « celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde ». Mais qu'on commence à réaliser que celui qui agit, l'apôtre Jean avait dit, nous sommes de Dieu et le monde entier est sous la puissance du malin. Vous vous rendez compte de ça? Combien il y a de milliards d'habitants actuellement sur Terre? Un peu plus de 6, hein? Ça augmente toujours, hein? Ça c'est sûr. Donc il y a quelques 6 milliards. Et combien appartiennent à Dieu? Moi, j'en sais rien, vous non plus. Personne ne peut faire le compte. Dieu seul sait ceux qui lui appartiennent. En tout cas, il y en a beaucoup qui ne lui appartiennent pas. Eh bien, la Bible dit que le monde entier, tout le système de ce monde, appartient au diable, et sous la puissance du diable. Et il dit, mais nous, nous sommes de Dieu. Vous vous rendez compte? Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui contrôle les systèmes économiques, les systèmes politiques, les systèmes religieux, les systèmes de dictateurs, de tyrans de toutes sortes, que ce soit maintenant d'extrême droite ou gauche ou que sais-je encore, mais de tout ce qui est diabolique. Eh bien, celui qui contrôle tout cela, il nous a dit que n'importe quel croyant, le plus petit d'entre nous, qui est le plus petit? Il y a des volontaires. Celui qui veut être le plus grand, on sait le critère, hein, c'est celui qui doit être le serviteur de tous. Et donc, même le plus petit d'entre nous, eh bien, il a en lui cette puissance de Jésus qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça n'encourage pas votre foi. Vous n'allez pas sortir d'ici avec une foi plus forte. Vous avez besoin de parler à vos circonstances. Pour vos devoirs à la maison, je vous laisse Luc 17. Nous n'aurons pas le temps. Dommage. Je ne veux pas trop vous fatiguer. Je ne veux pas trop vous fatiguer, mais je voudrais encore vous laisser Luc 17. Parce que dans Luc 17, 7, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est quelqu'un qui n'est jamais fatigué. C'est le serviteur. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, « Approche vite, mets-toi à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à souper. Sains-toi, sers-moi, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et boiras. » Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, « Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » Jésus parlait à des gens qui comprenaient mieux les notions de serviteurs que nous, parce que nous avons maintenant dans notre pays des droits de l'homme et tout ça, et on défend l'individu, et on lutte contre l'esclavage, qu'il soit moderne, ancien ou autre, et c'est bien, il faut lutter contre l'esclavage. Mais Jésus parlait des choses que les gens comprenaient. Et il savait qu'un serviteur, ce n'était pas juste un employé de maison. Un serviteur, ici, c'était un esclave qui n'avait droit à rien du tout, juste de travailler. C'était son seul droit. Son droit, c'était le travail. Bien sûr, on le nourrissait, on lui permettait de manger, de boire, mais ce n'était pas pour qu'il ait du bon temps, qu'il puisse boire, manger, s'amuser. C'était juste pour qu'il survive et qu'il ait assez de force pour refaire son travail. Ce n'était pas une vie enviable, c'était une vie qui n'avait aucune issue. Eh bien, bien sûr, il y avait des exceptions. Il y avait des maîtres qui aimaient leurs serviteurs, qui leur donnaient un petit peu de meilleures conditions de vie. Mais en réalité, ce que Jésus dit ici, voilà la situation de l'esclave. Et pourquoi parle-t-il maintenant du serviteur comme ça? Eh bien, c'est à cause du verset qui est juste au-dessus. Quand les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi », Jésus leur répond, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi, plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Et ensuite, il illustre et il dit, cette foi, comme un grain de sénévé, c'est-à-dire peut-être petit, mais puissant parce que actif, il y a là un germe de vie, il y a quelque chose qui peut donner un arbre, hein, même si c'est petit, bien ça c'est en toi, chacun d'entre vous. Cette chose y est, la foi, comme un grain de sénévé, vous l'avez. Vraiment, Jésus dit maintenant, et ça, traitez-le comme un esclave. Traitez votre foi comme un esclave infatigable qui doit toujours travailler. Vous ne traitez pas Dieu comme ça, vous ne traitez pas les autres comme ça, et vous ne traitez pas vous comme ça. Mais la foi est une chose, c'est quelque chose qui une force spirituelle, si vous préférez. Et nous pouvons la faire travailler, travailler, travailler sans cesse. Et vous savez ce qui est formidable avec la foi? C'est qu'elle continue de travailler même lorsque vous dormez. Il nous est dit que si vous semez quelque chose en terre, vous n'avez pas besoin de faire attention, ça va pousser tout seul. Et vous savez que beaucoup de plantes poussent la nuit. Il y a des plantes qui poussent la nuit. Eh bien, il y a des choses qui poussent et vous n'avez même pas besoin de regarder à ce qui se passe. Eh bien, votre foi, c'est pareil. vous lancez une parole reçue dans votre cœur sur une situation. Et alors vous ne changez pas. Vous ne changez pas votre façon de dire. Vous restez constant. Vous restez à proclamer les paroles de Dieu. Et la louange trouve sa place là-dedans. Parce que vous louez Dieu pour la puissance de sa parole, pour les promesses. Et vous continuez de dire à ce sycomore, déracine-toi. Déracine-toi, plante-toi dans la mer. Parlez aux choses. Ici, il parle du sycomore. Dans l'autre passage, il parle à la montagne. Mais c'est le même principe. Vous comprenez? C'est pas moi qui l'enseigne. C'est pas un mouvement. C'est Jésus qui dit ça. C'est les évangiles. C'est notre bonne vieille Bible qui dit ça. Mais nous devons le faire. Faites-le. Faites-le et ne vous inquiétez pas du travail de la foi. C'est pas à nous de le mesurer. Après, on en verra les fruits. Mais pour le moment, on ne change pas notre confession. Certains disent, j'ai essayé. Il ne s'agit pas d'essayer, il faut le faire. Il y a une grande différence entre essayer et le faire. Quand je dis, je vais essayer, ça veut dire, j'envisage que ça ne marche pas. Et ça, c'est la faille. C'est la faille. Jésus avait dit que si un homme manque de sagesse, qu'il la demande, mais qu'il la demande sans douter. Parce que s'il doute, il ne recevra rien de Dieu. Vous voyez ? Si vous doutez au moment où vous essayez votre foi, eh bien, immédiatement, ce n'est pas Dieu qui vous empêche de recevoir. Eh bien, l'adversaire voit la faille, tout de suite. Il n'y a pas de foi là-dedans. Ça ne marche pas. Ça ne produit rien. Voir si ça marche. Des fois, on veut voir si ça marche. On veut essayer. Non, ça ne marche pas comme ça. N'essayons pas, faisons-le tout simplement. Faisons-le et faisons confiance à Dieu. J'aimerais que, pour pratiquer cela, j'aimerais que nous ayons des compagnons de prière et qu'on se lance des défis, qu'on se dise, je vais prier, j'ai un sujet, j'aimerais que ça change dans tel domaine. Alors, on pourrait peut-être le mettre en pratique. On va se lever, on va prier d'abord et puis on va demander au Seigneur de faire certaines choses. On va mettre notre foi en action. Levons-nous ensemble. Ton esprit en nous. Merci parce que tes paroles sont esprit et vie. Nous sommes cette génération qui vivons en cette époque où tu as dit quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous voulons avoir cette foi qui transporte les montagnes et ta parole nous dit que nous l'avons en nous. Nous l'avons petit comme un grain de sénevé. Nous l'avons parce que nous avons entendu tes paroles et nous voulons la mettre en pratique maintenant. Nous voulons voir des choses changer. Nous voulons commencer à avoir l'audace de croire ce que tu dis. Nous voulons déclarer des choses de notre bouche. Nous voulons transformer les circonstances dans le nom de Jésus. Amen.